Les archives d'Afrique. Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
If you don't get the troops, you can't do much.
Si vous n'obtenez pas les troupes nécessaires, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Le maintien de la paix nécessite des soldats bien entraînés, mais vous ne les obtenez pas toujours. Les gouvernements qui ont des soldats qualifiés, aujourd'hui, ne participent pas vraiment au maintien de la paix. Beaucoup d'autres pays ont sacrifié grandement et continuent de défendre l'ONU. Et ensuite, comme vous le savez, je suis devenu secrétaire général.
Après les tragiques déconvenues, les lourds ratés des missions de maintien de la paix en Somalie et au Rwanda, où l'on a assisté à un véritable bain de sang, un génocide d'une vaste ampleur, Kofi Annan, le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, a tiré des leçons. Plus jamais ça. Et il le fait savoir. Il présente également ses excuses au peuple rwandais. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Kofi Annan. Amadou Ould Abdallah, ancien ministre mauritanien des Affaires étrangères, ami de Kofi Annan. Il a fait de nombreuses missions en tant que diplomate pour les Nations Unies.
Le Rwanda, c'est une question très, très difficile. Évidemment, tout le monde est d'accord qu'il y a eu un génocide. Et Kofi Annan était le secrétaire général adjoint chargé de peacekeeping,
le maintien de la paix.
C'était sa fonction. Les forces, il pouvait donner un ordre, mais les forces, comme avant et comme aujourd'hui, dépendent très souvent de ce que leur disent leurs gouvernements d'origine. Quand il y a des problèmes sérieux qui se posent, qui peuvent entraîner vie et mort des hommes, c'est le pays d'origine. Le commandant local du contingent fait appel à son gouvernement. Et je vous donne un exemple. Je connais un général ghanéen qui était commandant d'un bataillon. Charles Ahini de Huido, commandait un bataillon. Quand il a vu la tournure des événements, je regrette beaucoup que dans tous les hommages qu'on rende aux gens, on ne leur rende pas son droit. Quand les Nations Unies ont décidé d'évacuer, on a décidé d'évacuer parce que les Belges et les Canadiens ne voulaient plus rester. Donc il fallait évacuer tout le monde. Ce n'était pas les Nations Unies, c'est les États membres, mais le Conseil approuve. Le contingent ghanéen, dirigé par Charles Anihido, a appelé son chef, Rowling, et les deux sont vivants, et on peut recouper les faits. Il lui a dit, il y a des massacres. À l'époque, on parlait de massacres, on ne voyait pas la gravité, on ne parlait pas de génocide. Il y a des massacres entre nos frères, ici, je ne peux pas quitter. Je te demande de nous donner l'ordre de rester. Et Rowling lui a dit, je t'appelle dans quelques heures, je vais réunir le comité de la révolution. Ils avaient à l'époque pas la démocratie. Ils se sont réunis, deux ou trois heures après, lui a dit, vous restez, sauvez nos frères. Donc, les contingents répondent
d'abord à leur gouvernement.
À leur gouvernement quand la situation est périlleuse ou sérieuse. Donc, deuxièmement, les décisions vitales sont prises par le Conseil de sécurité. Ce n'est pas le secrétaire général adjoint. Il peut orienter. Moi, j'étais au Burundi, je voyais que c'était une situation grave, mais je voyais l'impact sur le Burundi. Donc, Kofi Annan et le secrétaire général adjoint, les décisions, c'est le secrétaire général et surtout le Conseil de sécurité. Et c'est le Conseil de sécurité qui a ordonné l'évacuation des contingents belges et canadiens. L'Union africaine qui était sur place ne voulait pas d'intervention étrangère de bonne foi aussi. Ils pensaient que les décisions doivent être faites à Arusha.
À Arusha, puisqu'ils étaient à Arusha.
Oui, en réunion pour trouver une solution.
Une solution.
Je l'ai vu avant et après cette période. Je pense que Kofi Annan le fait... D'abord, pour montrer ses regrets et sa compassion pour ce qui s'est passé,
De 20 ans de mort.
Oui. De 20 ans de mort et de mort atroce, et il ne pouvait pas rester insensible. Et il a parfaitement raison de le faire. Est-ce qu'il se considère responsable? Franchement, je n'ai jamais eu le temps de lui poser la question.
Confronté au conflit en Somalie, en Bosnie, au Proche-Orient et au Rwanda, Boutros-Boutros-Ghali, le secrétaire général des Nations Unies, mesure en cette fin d'année 1995 l'ampleur de son impuissance à réformer l'hydre onusienne qu'il dirige. Son agenda pour la paix, dans lequel il préconisait une diplomatie préventive, n'est pas parvenu à éviter le massacre au Rwanda malgré les alertes et les demandes d'intervention qu'il a introduites. La mort en Somalie de 18 soldats américains et les reculades de l'ONU dans les Balkans et dans la région est-africaine des Grands Lacs vont faire de lui le bouc émissaire de Washington. Il sent que sa réélection à la tête de l'ONU risque d'être un peu plus difficile que prévu. C'est pourquoi il choisit d'éloigner la menace. En novembre 1995, après l'accord de paix de Dayton, qui a mis un terme à la guerre en Bosnie-Herzégovine, Kofi Annan est nommé représentant spécial du secrétaire général pour l'ex-Yougoslavie. Sa mission est de superviser à cette occasion la transition de la force de protection des Nations Unies à une force multinationale de mise en œuvre de la paix, sous la direction de l'OTAN.
Boutros Ghali est venu aux Nations Unies sans expérience dans le système international. Bien sûr, il a été sous-secrétaire d'État ou sous-ministre pour les questions africaines de son pays, l'Égypte. Mais, et un bon diplomate, disons, un intellectuel, un écrivain qui venait souvent en France. Mais les Nations Unies, il n'avait pas une très grande expérience. Il venait de temps à autre. Et quand il a été nommé secrétaire général, je pense qu'il avait les capacités intellectuelles naturellement. Et surtout, il s'est appuyé beaucoup sur les Américains, comme il n'était pas très chaud au début pour son élection. Donc, il a pris comme speechwriter un Américain qui était le speechwriter du département d'État. Alors, sa gestion... Il voyait souvent, et ce n'est pas une critique, c'est plutôt un problème, à mon avis, de sa génération et de sa culture de l'époque. Pour lui, les collègues sont des collaborateurs ou des gens qui doivent travailler sur ordre.
Il est regardé en supérieur, quoi.
Oui, c'est ce qu'il voyait et c'est ce qu'il comprenait. Or, nous étions en Amérique où la hiérarchie est connue. Mais on n'a pas besoin, et surtout il est demandé de la démontrer, ça veut dire qu'on n'a pas confiance en soi. Deuxièmement, la gestion est transparente. Vous ne pouvez pas dire ma secrétaire, vous dites mon assistante, mes collègues, pas mes collaborateurs ou mes adjoints. Donc il y avait un problème de culture administrative. Ensuite, Kofi Annan avait beaucoup de réseaux à l'intérieur de la maison, comme il était chef du personnel pendant longtemps, et qu'il était très amical, et il avait d'excellentes relations avec la communauté diplomatique. Alors, ça n'a pas bien marché, surtout que des rumeurs disaient que Kofi Annan pouvait être un bon candidat au poste de secrétaire général avant même le second mandat de Boutros Ghali. En conséquence, Boutros Ghali voulait le faire partir de New York.
Il l'a fait partir de New York.
Et effectivement, il l'a fait partir de New York. Il l'a nommé dans l'ancienne Yougoslavie. Et je me souviens, j'étais à l'époque au Burundi. De passage à New York, Kofi Annan m'a dit, mais tu ne connais pas la bénédiction que je viens d'avoir. Si je suis resté longtemps à New York, voilà ma chance. Je vais aller sur le terrain. Et j'ai été, il m'a dit... Et tous les mois, j'ai des rencontres avec les ministres de la Défense ou des Affaires étrangères des pays européens. Je vois des militaires, des ministres de cultures différentes. J'ai élargi mon champ d'expérience et de connaissances. Il ne disait pas qu'il allait être candidat, mais après, j'ai compris que...
Que c'était un projet déjà.
C'était un projet déjà et que Dieu lui a ouvert un peu la voie.
juillet 1996, Boutros Boutros-Ghali est à 5 mois de la fin de son mandat, qui se termine le 31 décembre de la même année. C'est le moment où l'administration Clinton sort officiellement du bois pour manifester son opposition au renouvellement de son mandat. Madeleine Albright, la représentante des États-Unis à l'ONU, déclare carrément qu'il est, je cite, « archaïque ». Washington ne va ménager aucun effort pour persuader les dirigeants africains de présenter un autre candidat. Mais il reste solidaire de Boutros l'Africain, puisque malgré cette offensive diplomatique américaine, 53 pays africains vont lui apporter leur soutien. Au sommet de Yaoundé au Cameroun, ils vont rédiger une déclaration commune que délivre le président Paul Biya.
Les efforts constants qu'il déploie avec courage, dynamisme et compétence au service de l'Organisation des Nations Unies et au service de la paix lui valent la reconnaissance du continent africain tout entier. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OUA, réunis en juillet dernier à Yaoundé, lui ont renouvelé leur confiance. Ils m'ont chargé d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des États membres de l'ONU pour qu'un second mandat de 5 ans soit accordé à l'Afrique. Ils ont pour cela recommandé la candidature de M. Boutros Boutros-Ghali. Nous faisons confiance aux membres de notre organisation pour permettre ainsi à l'Afrique d'exercer 2 mandats successifs à la tête de l'ONU, au même titre que jadis l'Asie, l'Europe et l'Amérique latine.
Les autres membres permanents du Conseil de sécurité vont soutenir la candidature de Boutros Boutros-Ghali. C'est le cas de la Chine, qui a apporté son soutien à la déclaration de l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine, en faveur du secrétaire général de l'ONU. Seulement, les États-Unis ont décidé d'en finir avec ce diplomate peu arrangeant.
2 explications. La première, chaque 20 ans, l'élection du secrétaire général correspond avec l'élection du président des États-Unis. Donc c'est une coïncidence malheureuse. Une seconde explication, c'est que à la suite de l'assassinat de 18 soldats américains en Somalie, il y a eu un retournement de l'opinion publique américaine et une sorte de néo-isolationnisme. Et en même temps, les Nations Unies ont servi de prétexte pour expliquer certaines difficultés de la politique américaine. L'actuelle politique américaine, ils veulent un secrétaire et pas un général.
Amadou Ould Abdallah, ancien ministre mauritanien des Affaires étrangères, ami de Kofi Annan, il a fait de nombreuses missions en tant que diplomate pour les Nations Unies.
Tous les secrétaires généraux ont eu 2 mandats, sauf le premier secrétaire général, Trygve Lie, le Norvégien, qui a dû démissionner par malentendu avec les Soviétiques de l'époque. Mais tous les autres, il y avait une reconduction tacite. Pour Boutros Ghali, ça n'a pas marché pour des raisons longues à expliquer ici, mais c'était un manque de communication plus avec les New-Yorkais, plus avec les diplomates qu'avec le gouvernement de tel ou tel pays, en particulier américain ou britannique ou autre.
Ce que vous voulez dire, c'est que c'est finalement pas les États-Unis d'Amérique qui l'ont fait partie et qui n'ont pas voulu de lui alors?
Oui, ce ne sont pas les Américains, malgré... Vous savez, on vit souvent sur des convictions qui ne sont pas fondées. Moi, je crois que l'une ou la cause principale du fait que Boutros Ghali n'ait pas pu avoir un second mandat, c'est peut-être qu'il n'ait pas bien compris son rôle de fonctionnaire. Article 99, vous êtes le chef de l'administration. Par exemple, le président égyptien Moubarak n'a jamais été aux Nations Unies pendant le mandat de 5 ans de Boutros Ghali. Il y avait beaucoup de malentendus et très sincèrement, je pense qu'il était de bonne foi, il pensait qu'il était le chef
de la diplomatie mondiale.
De la diplomatie mondiale, alors que tout le monde sait qu'il s'agit des membres permanents. le secrétaire général est le chef de l'administration. Et les décisions, c'est les 5 membres permanents, c'est-à-dire la Chine, l'Union soviétique de l'époque, la Russie, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, plus la Chine naturellement. Et donc, il y a eu beaucoup de malentendus, mais Kofi Annan, donc, en a profité. Et c'est d'autant que les Nations Unies ne sont pas dans l'espace, ils sont dans une ville comme New York. Et New York, c'est une société culturelle, politique, économique puissante. Un secrétaire général, en général, comme Pérez de Cuellar, le Péruvien qui était là-bas, ou plus tard Kofi Annan, on s'entend bien avec le milieu dans lequel on vit. On assiste aux expositions de peinture quand c'est une dame patronesse qui le fait, quand il y a un dîner de société, on assiste. Et beaucoup de gens qui viennent de nos régions, comme l'Égypte, mais aussi toute l'Afrique et le Moyen-Orient, on pense que ne sont importants que les gouvernements. Donc, je vous dis ça à titre anecdotique, que si un ministre invite, Boutros Ghali peut venir. Mais si une dame patronesse, multimilliardaire, présidente d'une fondation ou d'un musée invite, il ne se sentait pas obligé de venir, mais surtout de commander au dernier moment. Donc ça n'avait rien de politique, c'était un problème social et politique uniquement dans le sens qu'il pensait que c'est lui qui décidait, pas le Conseil de sécurité.
À 74 ans, Boutros Ghali quitte à regret le poste de secrétaire général de l'ONU après seulement un mandat. Il est remplacé par le Ghanéen Kofi Annan, Ahmedou Ould Abdallah, ancien ministre mauritanien des Affaires étrangères.
Il fallait un Africain. Donc, si ce n'était pas lui, il fallait trouver un Africain. Les Français sous Chirac insistaient pour que Boutros Ghali soit reconduit. Et il y a eu des Africains, dont Meles, l'ancien premier ministre d'Éthiopie, à l'époque très ami d'Afewerki, qui est de l'Érythrée, plus l'Ougandais Museveni, ce qu'on appelait les nouveaux leaders africains, qui n'en voulaient pas. Alors, le Conseil de sécurité allait être bloqué, on a dit, bon, on va sauter le deuxième mandat de l'Afrique et chercher un Asiatique. Alors, la France a dû faire un compromis. Ils ont parlé à Kofi Annan, il y a un compromis, la France a retiré son veto parce qu'elle allait éliminer l'Afrique dans un second mandat.
Boutros Ghali.
En fait, je ne rêvais pas d'une paix dans le monde, je rêvais d'une nouvelle organisation qui puisse, elle, contribuer à une paix dans le monde. Donc il y a une différence. Je pensais que les Nations Unies, après, ont été créées à la suite de la Seconde Guerre mondiale, comme la Société des Nations a été créée après la fin de la Première Guerre mondiale et après la fin de la guerre froide, ce qui était aussi importante que la Seconde Guerre mondiale ou que la Première Guerre mondiale, mais qui était différente, je m'attendais à un renouveau des Nations Unies. Et lorsque j'ai été élu, j'étais persuadé que j'aurais un double rôle à jouer. D'abord, diriger cette organisation, mais ensuite la renouveler. Malheureusement, c'était des illusions, je me suis trompé. Les grandes puissances ne voulaient pas changer le système.
Kofi Annan, qui prête serment ce 1er janvier 1997 et devient ainsi le 7e secrétaire général des Nations Unies, premier subsaharien à cette fonction, avec la même ambition de réformer l'organisation, aura-t-il plus de chances, plus de marge de manœuvre que son prédécesseur? Celui dont les Africains sont si fiers ce jour-là saura-t-il être un bon visage de la diplomatie mondiale? On en parle dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Kofi Annan. Rendez-vous donc juste après une nouvelle édition du journal sur RFI. Restez à l'écoute et à très très vite.
Les archives d'Afrique à la Foka.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Quand j'ai commencé à travailler dans le système international, je ne savais pas que j'allais rester aussi longtemps. Je m'étais dit que je ferais ça pendant 2-3 ans et que je passerais à autre chose. C'est devenu le travail de toute une vie. Mais le véritable défi a commencé lorsque je suis entré au service du maintien de la paix. C'est aussi à cette époque que le maintien de la paix a explosé, de la Yougoslavie au Rwanda, passant par la Somalie.
Pourtant, après 36 ans de maison, il est en ce 1er janvier 1997 le patron de la Maison de Verre, le secrétaire général de l'ONU. Quel parcours pour le jeune Ghanéen. À présent, il peut mettre en œuvre ce qu'il a toujours attendu des Nations Unies. Faire comprendre la légitimité et la nécessité d'intervenir en cas de violation flagrante des droits de l'homme. La blessure de l'échec au Rwanda, l'impuissance de l'ONU qui n'est pas parvenue à empêcher le génocide, reste ouverte. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Kofi Annan.
I, Kofi Annan, solemnly swear.
Un subsaharien noir devient le 7e secrétaire général des Nations Unies.
Nouveau secrétaire général des Nations Unies, le Ghanéen Kofi Annan, qui dans une heure tout juste sera intronisé officiellement et qui remplacera donc Boutros-Ghali début janvier. Bonsoir, monsieur le secrétaire général. Entre nous, est-ce que l'ONU aurait pu faire l'économie de cette crise alors que Boutros-Ghali souhaitait justement continuer, se succéder à lui-même?
Je crois que Dr Boutros-Ghali a fait son mieux et le secrétaire général ne peut pas le faire tout seul. Il faut que les États membres travaillent avec lui.
Puisque les Américains vous aiment bien apparemment, est-ce que vous allez en profiter pour leur demander de rembourser leurs dettes?
Je travaille bien avec les Américains et avec les autres membres du Conseil. Et effectivement, essayer de les encourager de payer les dettes.
Vous étiez jusqu'alors responsable pour l'ONU des opérations de maintien de la paix dans le monde, Bosnie, Somalie, Zaïre. Est-ce que vous trouvez que la communauté internationale s'en est sortie grandie?
Pas vraiment. Il y a souvent un manque de volonté. Et quand il y a un manque de volonté, on ne peut pas faire grand-chose. On était un peu déçus parfois, mais j'espère que dans l'avenir, les États membres vont s'organiser du travail ensemble et avec nous.
Première initiative du nouveau secrétaire général de l'ONU qui veut mettre fin à cette inefficacité, son plan de réforme intitulé « Rénover les Nations Unies ». Il dit qu'il n'a pas la prétention de révolutionner l'organisation, mais il veut la rendre plus performante, plus pertinente. Il propose la création d'une commission ministérielle pour réexaminer la mission historique de l'ONU et celle des agences spécialisées, en particulier les institutions de Bretton Woods. Il présente son plan dès le mois de juillet 1997 aux États membres. Évidemment, il va faire face à l'opposition des grandes puissances qui n'ont aucune intention de céder une parcelle de leur souveraineté. Kofi Annan.
L'ONU est très compliquée et très, très difficile à réformer. Certaines personnes la comparent au Vatican. Ses racines sont profondes. Il y a d'importants intérêts et c'est très difficile à changer. Bien avant la dernière réforme de 2005, j'avais abordé le problème. Lorsque je suis devenu secrétaire général, j'ai rédigé un programme comportant des rénovations. Je me souviens que 6 semaines après la publication du rapport, un article était sorti dans le New York Times dans lequel quelqu'un se plaignait du fait que pendant ces 6 semaines, je n'avais pas réussi à mettre en place ces réformes et rénover l'ONU. Ce jour-là, je me souviens, je déjeunais avec le Conseil de sécurité. J'ai donc commencé à m'adresser au Conseil en m'excusant de ne pas avoir réussi à réformer l'ONU en 6 semaines. L'un des ambassadeurs, Sergueï Lavrov, qui est aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères russe, a déclaré « Monsieur le secrétaire général, de quoi vous plaignez-vous ? Vous avez eu plus de temps que Dieu n'en a eu pour créer le monde. » Je lui ai alors répondu, « Monsieur l'ambassadeur, vous avez raison. Mais Dieu avait un avantage. Il travaillait seul, sans le Conseil de sécurité. »
L'un des points importants de sa réforme des Nations Unies est celui du Conseil de sécurité. Il doit faire face à la toute-puissance des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale.
C'est très complexe, et particulièrement la question de la réforme du Conseil de sécurité. J'ai pu le constater la dernière fois que j'ai fait une proposition de réforme. Le fait est que la structure actuelle du Conseil repose sur les réalités géopolitiques de 1945. Mais le fait est que le monde a changé depuis. Et nous devons évoluer et nous adapter. Mais on ne le fait pas.
Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris que l'on ne pouvait pas demander aux membres permanents d'abandonner leur droit de veto. Ils ne le feront pas. Nous devions donc créer des sièges permanents supplémentaires, sans droit de veto, pour faire venir des nouveaux membres des autres régions du monde et rendre le Conseil plus démocratique et plus représentatif. Au début, nous avions eu de bonnes discussions et pendant un temps, j'ai cru que nous étions très proches d'une solution. Par exemple, avec la région africaine. Il était question que l'Afrique ait deux sièges permanents, mais nous avions trois candidats. Au moment où nous avons dit « il n'y a que deux sièges », tout le monde était d'accord pour dire « très bien, un siège pour l'Afrique subsaharienne et un siège pour l'Afrique du Nord ». Dès lors, il était clair quel pays obtiendrait le siège pour représenter les pays du Nord du Sahara. La compétition a donc commencé entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et tous deux ont déclaré « l'Afrique, c'est l'Afrique ». En avant pour la compétition et que la meilleure région gagne. En revanche, entre le Pakistan et l'Inde, ce n'était pas aussi fair-play. Je pense que si nous ne réformons pas le Conseil de sécurité, avec le temps, il perdra son influence et sa légitimité. La situation est déjà compliquée. Il ne faudrait pas arriver au stade où les pays émergents, qu'il s'agisse de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Afrique du Sud ou d'autres, se demandent « Pourquoi devons-nous accepter les décisions de ce Conseil ?» Cette entité non représentative. Les membres permanents et les principaux acteurs doivent bien réfléchir et accepter de céder un peu de pouvoir afin de rendre plus significative la participation des autres pays et permettre une vraie coopération internationale.
Au-delà des réformes auxquelles il tient beaucoup, le diplomate ghanéen qui arrive à la tête des Nations Unies doit faire face à plusieurs théâtres de conflits qui se multiplient. On est sorti 2 ans plus tôt de la guerre froide, mais les foyers de tension augmentent dans le même temps. Janvier 1998, nouveau coup de chaud entre les États-Unis d'Amérique et l'Irak. Le président Saddam Hussein est accusé d'empêcher l'accès à certains sites dits sensibles aux inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Washington ne peut accepter cette insolence, mais il doit convaincre ses alliés de le soutenir dans sa volonté d'en découdre avec le régime de Saddam Hussein. À l'occasion de la conférence internationale sur la sécurité qui se tient à Munich en Allemagne, les participants américains rappellent à l'ordre les Européens, affirmant que le vieux continent ne peut à la fois bénéficier de l'appui des États-Unis pour sa défense et refuser de soutenir les initiatives de Washington en faveur de la paix internationale sur les autres continents. Le chancelier allemand Helmut Kohl assure les États-Unis de son appui politique total et met les bases aériennes d'Allemagne à leur disposition, ce que refuse de faire le gouvernement italien. Dans le Golfe, dans le même temps, l'imposante armada américaine continue de faire des ronds dans l'eau. Washington montre les muscles. Devant l'escalade, le ministre russe de la Défense, Igor Sergeyev, déclare à son homologue américain Richard Cohen en visite à Moscou qu'une opération militaire contre l'Irak heurterait, je cite, « les intérêts vitaux de la Russie » et ramènerait les relations entre Moscou et Washington des années en arrière. La plupart des pays arabes sont également hostiles à une solution militaire. Kofi Annan annonce son intention de se rendre en Irak après avoir obtenu l'accord de Washington pour proposer à Saddam Hussein des conditions d'inspection particulières pour les sites présidentiel. Avant de prendre le chemin de Bagdad, le secrétaire général des Nations Unies vient consulter le président français Jacques Chirac.
J'appelle en tous les cas l'Irak à accepter les propositions qui lui seront faites par le secrétaire général de l'ONU, car ce sont en réalité les propositions de la communauté internationale tout entière. Et je sais que M. Kofi Annan fera de son mieux pour préserver la paix.
Et j'espère que je serai en position de convaincre le président Saddam Hussein d'accepter certaines propositions que je lui ferai d'éviter qu'il y ait une frappe militaire.
Le 20 janvier, Kofi Annan arrive à Bagdad.
Good evening, ladies and gentlemen.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Je voudrais dire quelques mots. Si je suis de retour à Bagdad, c'est pour remplir une mission très importante. Je dirais même un devoir sacré. Je suis ici pour trouver une solution pacifique. J'espère que les discussions de ces prochains jours
Nous permettrons, le gouvernement irakien, Monsieur le Président Saddam Hussein et moi-même, de trouver une sortie à cette crise. En tant que secrétaire général, j'ai une obligation juridique et morale d'aider à réduire les tensions internationales lorsque cela m'est possible. C'est le but de ma mission ici. Et j'espère que je quitterai Bagdad avec une solution qui sera acceptable pour tous. Je vous remercie.
Mesdames et messieurs, au nom du gouvernement irakien, nous souhaitons la bienvenue à son Excellence, M. Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies. Nous sommes sur le point d'entamer des discussions constructives sur la situation actuelle et je partage l'optimisme du secrétaire général quant aux résultats de ces discussions. Ce que veut l'Irak, c'est une solution juste et équilibrée à ce problème. Nous voulons la paix et une résolution juste et équilibrée à la situation actuelle qui préserve la souveraineté, la dignité et la sécurité nationale de l'Irak et respecte les résolutions de l'ONU. Merci beaucoup.
Après quelques heures de négociations, le secrétaire général de l'ONU signe avec le vice-premier ministre irakien Tariq Aziz un texte qui, je cite, « lève les obstacles à l'application des résolutions du Conseil de sécurité relatives au désarmement de l'Irak et à son contrôle ». Le document dresse la liste des 8 sites présidentiels qui seront visités de façon permanente et sans limitation dans le temps par les experts de la Commission des Nations Unies pour le désarmement de l'Irak accompagnés de diplomates. En obtenant ainsi de Saddam Hussein qu'il consente à un protocole autorisant les inspecteurs des Nations Unies à visiter tout site suspect en Irak, le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, semble avoir désamorcé la crise. Maintenant, il faut que Washington l'approuve. Sur le chemin de retour, il passe consulter le président français, Jacques Chirac.
Monsieur le secrétaire général, tout à l'heure, le président Chirac s'est entretenu par téléphone avec le président Clinton. Ils se sont mis d'accord pour que l'accord que vous avez en poche puisse être très vite mise en application. Ça vous semble un bon signe ?
Oui, non, c'est un très bon signe et je suis très content d'entendre ça. C'est très encourageant.
Vous attendiez à des discussions difficiles à New York devant le Conseil de sécurité ?
Je ne sais pas comment répondre parce que j'estime que l'accord qu'on venait de signer à Bagdad est très correct. Et donc, j'attendais que même s'il y a des discussions au Conseil de sécurité, que ça ne devait pas être trop dur, mais on ne sait jamais. Donc, demain, j'arrive à New York, le même matin, par Concorde, et je vais directement au bureau pour briefer le Conseil de sécurité.
Un petit point technique. Si l'accord est mis en application rapidement, est-ce que ça veut dire que l'UNSCOM est prêt à visiter les sites présidentiels dans l'immédiat?
Oui, le président Saddam Hussein et le gouvernement irakien ont accepté qu'on peut visiter tous les 8 palais.
Le président Clinton va approuver l'accord tout en déclarant maintenir les forces américaines dans le Golfe. Dans la foulée, le Conseil de sécurité de l'ONU entérine l'accord signé par Kofi Annan. La guerre est évitée de justesse pour l'instant. Mais dans un monde en perpétuel mouvement, où les intérêts des uns contrarient trop souvent ceux des autres, pas de répit. Le diplomate doit faire face à d'autres tensions. Il est de nouveau appelé dans la région des Grands Lacs où, après le départ précipité des forces de maintien de la paix en 1994, les choses ne se sont pas arrangées. Pendant que Kofi Annan était encore à New York, le paysage a considérablement évolué dans la région. Petit rappel. Après le terrible génocide qui a secoué le Rwanda en 1994 et l'important déplacement des populations qu'il a entraîné, alors que le monde entier est encore sous le choc et essaie parfois maladroitement d'établir les responsabilités, une idée germe et prend forme dans l'esprit de deux hommes, deux chefs d'État, le président Yoweri Museveni d'Ouganda et son protégé, celui qui l'a aidé à prendre le pouvoir au Rwanda, Paul Kagame. Il faut pour leur sécurité repousser le plus loin possible, vers l'intérieur du Zaïre, les réfugiés et les milices hutus massés le long de leurs frontières. Il s'agit d'éloigner la menace. Ce plan va être facilité par une autre préoccupation que partagent certains autres chefs d'État influents de la sous-région. Le président Mobutu, vieillissant, ne devrait pas mourir aux affaires parce que le pouvoir risque de tomber aux mains de proches collaborateurs pas très recommandables. Il ne faut pas donner l'occasion à ses proches de perpétuer ce régime. Ils sont donc un certain nombre, les dirigeants, qui s'accordent sur la nécessité de faire tomber le régime du maréchal Mobutu. Et même Washington adhère à l'idée de le voir partir, d'en finir avec le vieux maréchal. Surtout que les Américains sont de plus en plus intéressés par cette riche région des Grands Lacs dont le Zaïre constitue le cœur. Les États-Unis d'Amérique ont justement pour accomplir ce dessein des alliés qui ont leurs préoccupations à eux, l'Ouganda et le Rwanda. Et pour accomplir cette mission, il faut un homme, il faut une caution congolaise. Laurent Désiré Kabila fait l'affaire. C'est dans ces conditions que l'ancien maquisard lumumbiste réapparaît dans l'échiquier. Il avait disparu depuis longtemps déjà des radars. Le vieux maquisard constitue, rassemble habilement quelques guerrieros. Et avec l'aide de ses alliés, il crée en septembre 1996 l'AFDEL, l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo. Au départ, ce mouvement est une pure extension du gouvernement et de l'armée rwandaise, avec en plus quelques officiers et soldats ougandais. Des forces étrangères qui profitent de cette couverture pour nettoyer dans le sang les camps de réfugiés Hutus proches de leurs frontières. Chamlesso, ancien maquisard, un des collaborateurs de Laurent Désiré Kabila.
L'idée de Museveni et même de Paul Kagame, c'était de créer un cordon sanitaire autour du Congo. Ils ont dit, attention, faisons peur à Mobutu, arrivons jusqu'à... Mais il ne faut même pas prendre Kisangani.
Laurent Désiré Kabila rassemble ses troupes et commence son inexorable montée vers le nord. En quelques mois, il va peu à peu sécuriser pour l'Ouganda toute une bande de terrain allant du nord Kivu à la frontière soudanaise. Bukavu est la première ville prise par la rébellion. Face à une armée zaïroise désorganisée, mal payée et mal formée, la rébellion avance vite, très vite. Les combats font rage dans le nord Kivu, provoquant le déplacement de 300 000 réfugiés qui fuient leur camp. En novembre 1996, le 4 exactement, le gouvernement de Kinshasa reconnaît qu'il ne contrôle plus les villes de Goma et de Bukavu. L'idée d'une intervention des forces étrangères pour voler au secours des réfugiés commence alors à circuler.
La déclaration politique de Laurent Kabila, le leader des rebelles Tutsis, à défaut d'inciter à l'optimisme quant au sort du million de morts vivants de Mugunga, a le mérite de fixer la ligne de conduite d'une alliance bigarrée que l'on sentait jusque-là aux mains des seuls militaires. Kabila a un projet qui dépasse le contrôle du Kivu, renverser Mobutu et prendre Kinshasa, rien de moins.
Lorsqu'en janvier 1997, Kofi Annan est nommé secrétaire général de l'ONU, il n'imagine pas qu'il va être confronté dans la même région à une autre catastrophe humanitaire. Cette inexorable avancée des forces de l'AFDEL, l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, va se faire au prix des centaines de milliers d'autres victimes, comme nous allons le voir la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Kofi Annan. Pour le secrétaire général, pas question d'impunité cette fois-ci. Ceux qui ont commis ces exactions, ces crimes de masse doivent rendre des comptes. N'aura-t-il plus de pouvoir ce coup-ci pour faire rendre gorge aux criminels? Les grandes puissances déploieront-elles des troupes pour mettre un terme aux massacres, aux violences qui se poursuivent? Rendez-vous la semaine prochaine pour en parler. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site du RFI, à la rubrique podcast ou sur archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également continuer de réagir sur notre page Facebook, la première sur notre antenne, avec ses 600 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence pour la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Kofi Annan. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite. Une semaine.